Bonsoir à tous. Donc nous allons continuer notre série sur les proverbes. On arrive sur la fin, les derniers chapitres. Donc on en est à Proverbe 30. On avait commencé d'en parler la dernière fois. On va continuer sur le Proverbe 30 et on fera un troisième volet la prochaine fois. Parce que là, on va s'arrêter sur juste une poignée de versets. Juste, je voudrais d'abord revenir vite fait, juste pour faire un commentaire sur deux versets que j'avais lus la dernière fois. Donc, je ne reprends pas du tout tout ce que j'ai dit la dernière fois, loin de là. C'était la demande que le psalmiste faisait à Dieu au verset 7, donc Proverbe 30, verset 7. Je te demande deux choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Et juste un commentaire assez rapide sur ces deux, trois versets. Vous savez, souvent on se pose la question, qu'est-ce que ça signifie la crainte de Dieu ou craindre Dieu? Alors on a nos définitions qui sont correctes, on a un peu des explications qui sont très bien. Mais je trouve que là, ces trois versets, en fait, c'est une manière, c'est peut-être pas la seule, mais c'est une manière assez intéressante de définir la crainte de Dieu. En fait, est-ce que dans mon cœur, je prie la même chose que le psalmiste ici. Est-ce que je demande deux choses à Dieu avec insistance, parce qu'il demande et ne me le refuse pas pendant ma vie. Donc ce n'est pas juste ponctuellement, c'est pendant ma vie et ne me le refuse pas. Donc il est dit, ne me donne ni pauvreté ni richesse. Est-ce que je peux dire que je veux ni pauvreté ni richesse? Ça veut dire en tout cas qu'il y a un attachement qui ne va pas être sur la richesse. Et puis, comme il l'explique par la suite, il demande de ne pas être pauvre parce qu'il sait que ça va être une pierre d'achoppement, une tentation, une problématique dans sa vie et dans sa relation vis-à-vis de Dieu, sachant ce qu'est l'homme, tout simplement. Hein? Donc, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel. Je dirais que c'est même violent de dire qui est l'Éternel alors que nous sommes des croyants. Première chose, c'est de ne pas rechercher l'abondance. Afin, le but, c'est pas de se perdre soi dans cette vie, c'est de ne pas renier qui est l'Éternel. Ce n'est pas la même chose en fait. Et le deuxième point, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il y a des versions qui disent, et que je ne prenne le nom, et que je ne prenne le nom de Dieu en vain, ou le nom de mon Dieu en vain. Donc là aussi, ça nous donne on va dire une définition plausible et qui a un certain intérêt sur qu'est-ce que ça signifie, que signifie prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, prendre le nom de l'Éternel en vain, là, d'après le verset, c'est tout simplement pécher contre Dieu. Je dirais faire à l'inverse de ce que nous savons que Dieu nous demande, que ce soit de manière générale ou de manière plus particulière. Là, ici, c'est forcément un commandement général qui est défini, donc celui de voler. Enfin, un commandement. Non, pas un commandement, au contraire, une interdiction, quoi. Mais ça peut être aussi par rapport à des choses que Dieu nous aura dit à nous, il n'aura pas dit à quelqu'un d'autre. Et quelque part, ben, même pas quelque part, tout à fait, il n'y a que nous qui savons ce que Dieu nous a demandé à nous. Alors les autres peuvent des fois deviner un peu, mais il n'y a que moi qui sais ce que Dieu m'a demandé à moi. Vous ne pouvez pas le savoir à ma place, sauf si éventuellement je le dis. Mais Dieu ne vous le révélera pas. Donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant. Ces deux points, intéressants en eux-mêmes, mais intéressants dans le fait que, voilà, si je dois me demander est-ce que je suis sur des bons rails, est-ce que je suis dans une relation correcte avec Dieu, est-ce que je pense plutôt bien avec Dieu en ce moment, quelle est mon attitude vis-à-vis de Dieu? Donc, toujours le mot que je vous ai bassiné depuis quelques fois, l'attitude. Quelle est mon attitude vis-à-vis de Dieu? Ben, est-ce que cette prière-là, elle trouve une place dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mes réflexions et dans ce que je veux suivre pour ma vie. Hein? Voilà. Alors, on va aller un petit peu plus loin. La dernière fois, on a terminé sur ce qu'ils appellent, ce que les commentateurs appellent un proverbe numérique. Non, oui, c'est numérique. Si, c'est un proverbe numérique. Donc, c'est de versets 15 à 17. Donc, on va le reprendre, on va en dire un peu d'autres choses et on va l'assembler avec le suivant. Parce que quand même, autant souvent, je vous ai dit que les proverbes étaient une succession de déclarations qui, des fois, étaient collées, on va dire, sur deux versets ou des fois sur quatre ou des fois pas du tout, ou on ne suivait pas forcément quelque chose de bien continu. Mais dans ce chapitre 30, c'est quand même assez intéressant, le découpage. Parce que nous avons pu découper une première partie en trois morceaux la dernière fois. Et là, nous avons en fait deux proverbes numériques qui sont l'un à la suite de l'autre. Quand je dis numérique, c'est parce que là, ici, jusqu'à la fin du chapitre, il va donner des images, enfin, l'auteur va donner des images en parlant de, voilà, il y a trois choses et même quatre. Là, ici, au proverbe 15, c'est la censure à deux filles, donne, etc. Donc, il y a ce côté où on utilise des nombres et des successions pour mettre une insistance sur une vérité ou pour éventuellement la développer. Et du coup, c'est peut-être valable pour nous de prendre les choses dans leur contexte et d'assembler ce qui doit s'assembler ensemble et de pas tout mélanger. Donc ici, je pense que les deux premiers, là ici, donc versets 15 à 17 et ensuite 18 à 20, ce sont donc deux proverbes, deux images qui nous sont, enfin, succession d'images qui nous sont données, avec cette histoire de numéros, si vous voulez, de fois. Mais on va y trouver un sens qui va un peu se trouver, qui va aller ensemble, et puis peut-être qu'on rebondira ailleurs. Enfin, sûrement. Donc, je vais simplement déjà lire ça et on va y revenir tout doucement. Donc, la censure à deux filles donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Alors, juste un petit point avant de revenir dessus. Là, on a deux séries de proverbes avec à chaque fois, on va dire, une idée. On va lier le tout, mais ce qui est intéressant, et pourquoi est-ce que j'ai lié ces deux séries, donc versets 15-17 et 18-20, c'est parce que vous avez cette formulation, il y a trois choses et même quatre, mais à l'issue des images ou des exemples qui sont donnés, il y a une déclaration qui est faite. Et cette déclaration, je pense qu'elle est liée avec ce proverbe numérique qui précède. Alors que les proverbes numériques qui vont être dans la suite, il n'y aura pas une déclaration dans la suite. Il y aura juste, on va avoir juste deux versets à la fin de toute la série, qui peut éventuellement être considéré comme étant une conclusion, ou en tout cas, on y reviendra quand ce sera le moment. Mais ici, j'ai pris ces deux fois deux versets, ensemble, par morceaux, si vous voulez, parce qu'il y a vraiment la même formation, la même structure, si vous voulez. Donc, ce proverbe numérique avec « il y a trois choses et même quatre », les choses sont citées, et ensuite, il y a un verset derrière, qui peut éventuellement sembler parler d'autre chose, mais qui en fait est, on va dire, en conclusion ou en application, en rapport avec ce qu'on a vu au-dessus. Donc, je vous lis 18-20 et on revient. Verset 18, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Et donc, on s'arrêtera là. Alors, on va revenir au-dessus et on va un petit peu développer. On va revenir sur la sangsue qui a deux filles. Donne, donne. L'image est quand même assez intéressante. Déjà, une sangsue, ça vous bouffe. La sangsue, ça se nourrit du sang, donc de ceux qui véhiculent la vie. Et donc, déjà, la sangsue, déjà, juste vous dites, sangsue, déjà, vous comprenez que ça vous prend quelque chose, déjà. Mais ici, l'auteur, il en rajoute, la sangsue a deux filles, donne, donne. Ça, on n'insiste pas, hein. Je veux dire, si jamais on pensait que peut-être c'était elle qui allait donner quelque chose, ben, on est arrivé là, hein. Donc, donne, donne. Trois choses sont insatiables. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme si le chapitre, c'était de ces deux versets, la sangsue a deux filles, donne, donne. Donc, ça, c'est le thème sur ces deux versets. Donne, donne. Mais voilà. Donc, trois choses sont insatiables. Là, on y est. On commence à être dans le sujet. Insatiable. Ça, c'est un grand problème. Insatiabilité. Insatiable. C'est un grand problème dans l'humanité. Et ça cause de grands problèmes. On va y revenir un petit peu. Donc, quatre ne disent jamais assez. Alors, c'est quand même drôle parce que la sangsue par elle-même, ça veut dire quelque chose. Elle a deux filles, donne, donne, ça insiste sur le fait de dépouiller quelqu'un. Et trois choses sont insatiables et ces choses qui sont insatiables. Et quatre ne disent jamais assez. Donc, je veux dire, si là, vous n'avez pas un sentiment de perte, peut-être que vous n'avez pas très bien compris de quoi nous parlons dans ces versets-là. Hein? Mais en tout cas, l'auteur aura fait le maximum pour nous faire comprendre que là, on est en train de parler d'un gros sentiment de perte quand même. Hein? Donc, quatre ne disent jamais assez, et ils sont donc déclinés. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau, et le feu qui ne dit jamais assez. Donc, ces quatre points-là, ces quatre choses, on va dire, il n'y a pas que des choses là. Comment dire, ben, il n'y a pas forcément grand-chose à développer sur chacun. Ce sont des images assez parlantes du fait qu'il y a un manque. Et ce manque, il est légitime ou il est moins légitime, peu importe à la limite. Le fait est qu'il y a un gros sentiment de manque. Et cette grosse insistance sur ce sentiment de manque, pourquoi c'est important et qu'est-ce que veut dire l'auteur ici? Ben en fait, il explique, il le conclut au verset 17 avec quelque chose qui nous paraît ne rien avoir avec ce qui précède. On se dit, bon, manque, très bien. Et verset 17, si je dois le coller à ce que je viens de lire, ça peut paraître bizarre. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère. Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Alors ici, il y a plusieurs choses. Donc je vous dis que ce verset-là, en fait, il conclut ce qu'il y a au-dessus. Au-dessus, c'est l'insatiabilité, un sentiment de perte, un sentiment de manque, un sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas et oui, qui manque dans le tableau, on va dire, et qui fait que ça ne fonctionne pas. Et ici, donc, l'œil se moque d'un père. Et qui dédaigne l'obéissance envers une mère? Et pour moi, l'œil qui se moque d'un père, le père, c'est qui dans cette idée-là? En fait, l'œil qui se moque d'un père, c'est celui, en fait, qui se moque de Dieu. C'est celui qui n'est pas qui veut pas être en lien avec Dieu, ou en tout cas, qui d'une manière ou d'une autre, et à un degré ou à un autre, le renie. Donc, l'œil qui se moque d'un père. Le père, c'est Dieu pour moi. Alors pourquoi ensuite il est dit, et qui dédaigne l'obéissance envers une mère? Pour moi, l'obéissance à la mère, et la mère, en fait, c'est quoi? C'est l'autorité déléguée de Dieu sur la terre. Alors, ne vous inquiétez pas, l'autorité déléguée de Dieu sur la terre, c'est pas le pape. Hein, il n'y a pas de souci. Non, l'autorité déléguée de Dieu sur la terre, c'est tout ce qui est autorité à cette autorité de la part de Dieu. Donc, que ce soit dans une famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans une société quelconque, que ce soit dans un pays, que ce soit les personnes de par leur travail qui ont une autorité, que ce soit un enseignant, que ce soit un policier, un pompier, un médecin qui a une forme d'autorité. Voilà. Tout ça, en fait, ce sont les autorités déléguées dans la vie que nous vivons sur Terre. Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Ben, il est dit que celui qui a en fait, qui a un mauvais œil envers son père, ou celui qui devrait être son père, c'est-à-dire Dieu, et qui parle le même biais, et je dirais, en fait, ça va exactement ensemble, il n'a pas de. Comment il est dit ici? Il dédaigne l'obéissance envers une mère. Il n'est pas dit qu'il n'obéit pas. Il est dit qu'il dédaigne l'obéissance. C'est-à-dire qu'il estime que l'obéissance envers la mère, c'est nul, quoi, si vous voulez. Donc, évidemment que le premier degré, c'est que ça parle de parents. Mais en deuxième degré, pour moi, ça parle de Dieu, d'une attitude qui n'est pas correcte envers de Dieu, et d'une attitude qui est, du coup, qui est dédaigneuse, effectivement, envers ce que Dieu fait sur la terre, c'est-à-dire la mère. Dédaigner l'obéissance envers la mère. Oui, ce que Dieu fait sur la terre. Et alors, vous allez me dire, bon, très bien. Et alors, les corbeaux, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans? Les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça signifie que les personnes qui sont décrites au verset 15 et 16, donc ceux qui ont un manque, hein, ceux qui ont un manque, qui ne sont pas rassasiés, ce sont ceux qui ont un œil qui se moquent de Dieu le Père et qui dédaignent l'obéissance envers la mère qui est l'expression de Dieu sur terre. Et cela, qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien, il va arriver qu'ils vont être maudits. Pourquoi je dis qu'ils vont être maudits? Parce que les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a deux points là-dedans et tous les commentateurs sont d'accord. Le premier point, c'est que si ces oiseaux vont les percer et vont les manger, ça signifie que leur cadavre ne va pas être enterré correctement. Il n'y aura pas une sépulture, on va dire, avec un tant soit peu de respect pour ce qu'a été la personne. Et deuxièmement, ces animaux, en tout cas le corbeau, est un animal qui est impur selon la loi. Donc ces deux éléments-là font que les gens qui sont décrits au-dessus, de par l'insatiabilité et de par un reniement et une attitude dédaigneuse envers la personne de Dieu et son expression sur la terre, ces personnes-là vont être maudites. Donc, quelque part, ça parle de quoi? Eh bien, ça parle, d'une certaine manière, on peut dire, des gens qui vont aller en enfer, mais ça parle aussi d'autre chose, et c'est là où ça devient peut-être très intéressant pour nous pour la suite. Ça parle en fait de notre chair. Ça parle de notre premier homme. Ça parle de notre première nature, celle à laquelle nous avons tendance, ça peut être un peu trop souvent, nous identifier. Et parce que notre nature première, elle est comme la sangsue, hein, donne-donne. Elle est insatiable, elle est en manque permanent, comme les quatre éléments qui ont été décrits ici. Et notre première nature, elle se moque du Père et elle est dédaigneuse envers l'obéissance, envers la mère, c'est-à-dire envers les conséquences de Dieu. Donc ça, c'est une chose. Alors, il y a un commentateur qui est assez intéressant, lui a estimé que ces trois versets-là, il parlait de la cupidité. Et du coup, sans être ni d'accord ni contre, mais plutôt quand même d'accord malgré tout, juste j'ai regardé la définition de la cupidité. Et la cupidité, c'est un désir immodéré d'argent et de richesse. Donc, ce n'est pas que de l'argent, mais c'est un désir qui est immodéré, on va dire, pour tout ce qui peut être une forme de richesse. Ça peut être des envies, ça peut être un peu n'importe quoi. Mais le premier point, évidemment, c'est par rapport à l'argent, c'est de l'avarice. Donc la cupidité, c'est une chose qui est décrite ici. Ensuite, on va lire les deux autres versets. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre, que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer, et la trace de l'homme chez la jeune fille, la jeune femme, pardon. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Alors ici, de quoi nous parlons? Alors, ce même commentateur, je vais vous dire ce qu'il a dit, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, mais j'ai trouvé au moins que ce qu'il disait avait un certain sens, même si moi, je vais partir dans un biais un peu différent, notamment parce qu'il y a un mot qui m'a, on va dire, arrêté dans ce passage, et on va y revenir sur ce mot, Et on va revenir sur ce mot dans l'hébreu et on va voir un peu. Donc, la chose que dit ce commentateur, il dit en fait les quatre choses ici qui sont décrites, donc la trace de l'œil, etc., ce sont des choses qui sont cachées. Et il dit, et il fait comme moi, il estime que la déclaration qui a après les quatre, comment dire, les quatre éléments numériques, elle est en conclusion. Et du coup, pour lui, la femme adultère, elle est en conclusion de ce qu'il y a au-dessus. Et son idée, c'est que la femme adultère, elle cache son péché. Et c'est vrai que l'attitude qui nous est décrite ici, c'est quand même de le cacher ou le renier, enfin, peu importe. Et donc, lui, il estime que ce qui est décrit ici, par ces trois versets, c'est l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est d'une certaine manière cacher les choses. Alors, je trouve ça intéressant la manière dont il explique la chose. Je trouve que c'est pas mal, ça a un certain sens. Mais je pense que on va aller quand même dans une autre direction. Parce que le mot qui m'a interpellé ici, en fait, c'est le mot trace, qui n'est pas utilisé dans toutes les traductions françaises. Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'ici, c'est pas, toutes les traductions françaises ne traduisent pas la trace de l'aigle, la trace du serpent et la trace du navire. Hein? Souvent, c'est le chemin, c'est la voie, etc., etc. Par contre, il y a une version, j'en ai vu qu'une, je crois, qui, au lieu de dire telle est la voie de la femme adultère, dit telle est la trace de la femme adultère. Et pourquoi je vous dis ça? Pas juste pour vous dire que j'ai un peu fouillé et que je me suis occupé, c'est pour vous dire que, en fait, dans les quatre fois, c'est le même mot qui est utilisé en hébreu. Le mot, c'est derek. Ce mot-là, ça parle effectivement de chemin. Ça parle de chemin, ça parle de trace, ça parle d'usage, de direction. Et donc voilà, donc on pourrait mettre l'un ou l'autre, et c'est vrai que quand on lit ici les trois versets, ça semble plus naturel de dire telle est la voie de la femme adultère plutôt que telle est la trace, parce que voilà, ça a un peu moins de sens pour nous. Mais je me suis arrêté lourdement sur ce mot, donc derek, et surtout sur le fait de le traduire par trace. Parce que finalement, une trace, ce n'est pas juste un chemin, une trace. Quand vous tracez une ligne, OK, vous faites un chemin. Mais une trace, ce n'est pas juste un chemin. C'est un chemin, mais c'est un chemin particulier. C'est un chemin qui est constitué par une succession d'empreintes, par des traces, en fait, par des taches, par quelque chose qui a été... qui a du poids et qui a pesé sur le sol. C'est pas juste quelque chose qui a été aménagé, on a un peu poussé, on a gratté, on a tiré une ligne droite ou courbe ou peu importe. Non, non, on a fait une trace. Et chose qui est à noter sur les premiers versets, donc sur notre proverbe numérique, il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. Et en fait, cette introduction-là, pour moi, me fait penser, et vous allez essayer de suivre ma pensée pour le coup, que ce commentateur, même si c'est très intéressant la manière dont il a vu la chose, je pense qu'il n'est pas dans le mille. Il n'est pas dans le mille parce que je pense que le début de l'explication de ces trois versets, il est là. Il est dans le verset 18. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre que je ne puis comprendre. Et cette chose-là, en fait, je pense qu'il faut le prendre de manière positive. Le fait qu'il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée et que je ne peux comprendre, ça doit être pris de manière positive. Et c'est là où j'espère que vous allez suivre mon raisonnement jusqu'au bout. Donc ici, il nous est dit la trace de l'aigle, la trace du serpent, la trace du navire et la trace de l'homme chez la femme. Chez la jeune femme, ou chez la Vierge, il y en a qui traduisent la Vierge aussi. Donc la trace à chaque fois, c'est donc, on a dit, c'est un chemin, mais c'est aussi, et c'est surtout, je dirais, une empreinte. Donc, quel effet il y a sur le deuxième élément? Et le point commun, ou les points qu'on peut rassembler sur ces quatre citations, c'est que la trace de l'aigle dans les cieux, vous ne la voyez pas, la trace du serpent sur le rocher, vous ne le voyez pas, ou alors c'est très éphémère. La trace du navire au milieu de la mer, vous le voyez de manière très éphémère, c'est-à-dire au moment où il passe, vous voyez le sillage, mais après, enfin, un peu l'écume, et une fois qu'il est un peu plus loin, ben, vous ne le voyez plus, les flots reviennent à leur place. Et la trace de l'homme chez la jeune fille, ça c'est encore une autre explication à aller donner. Pas mal de commentateurs, enfin, bon, les commentateurs ont différentes idées là-dessus, mais je pense que la meilleure, avec justement cette idée d'empreinte, c'est parce qu'il y en a, il y en a qui parlent, c'est l'homme qui. La trace de l'homme sur la jeune fille, c'est, on va dire, le fait qu'il l'a séduite. Mais je pense que la meilleure manière de le voir n'est pas celle-ci, c'est justement par rapport à cette idée de trace, c'est le fait qu'il va que la trace de l'homme chez la femme, c'est qu'il va donner une descendance, en fait. C'est qu'il va y avoir un enfant et on ne sait pas. Et donc, où est l'inconnu? L'inconnu, il est d'abord, quand il n'y a pas d'enfant, la trace de l'homme, ben, on ne la voit pas. Enfin, pas vraiment. Et quand, du coup, la trace de l'homme produit un enfant, on ne sait pas ce que va être cet enfant. Donc, nous sommes dans une forme d'inconnu et d'invisibilité et de choses qui sont cachées, de la même manière que la trace de l'aigle, je la vois pas, la trace du serpent, je sais qu'il y en a une quelque part, mais il n'y a pas. Et la trace, où est-ce qu'elle est? Et la trace du navire dans l'eau, bon, celle-ci, elle est plutôt éphémère qu'invisible. Donc, elle est cachée par le fait qu'elle est fugace. Mais le point qui m'intéresse, c'est ça, c'est que ces choses-là sont au-dessus de ma portée et je ne puis les comprendre. Et on a besoin de prendre cette déclaration comme étant positive, parce que c'est le sens que l'auteur, je pense, veut donner ici. Parce que à la suite, au verset 20, donc il dit, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Quel est le rapport à ce qu'il y a au-dessus? Ben, le seul rapport qu'il y a avec ce qui est au-dessus, le rapport ou l'opposition, peu importe, c'est le fait que, effectivement, la voix de la femme adultère, c'est également la trace. C'est également la trace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas dit que cette trace-là, on ne la comprend pas forcément. Mais en tout cas, ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Nous ne les comprenons pas, c'est au-dessus de nos portées, etc. Et ce que je veux, le point où je veux vous amener ce soir, et le titre, ça sera la trace de Dieu, c'est que pour moi, les trois premières images qui ont été données, ça représente, sans rentrer dans le détail, sans aller chercher des explications très fouillées, ça parle du fait que Dieu veut faire une trace dans notre vie. Et cette trace, elle est au-dessus de ma portée et je ne peux la comprendre. Mais il y a une autre trace dans ce monde qui n'est pas la trace de Dieu. Et cette autre trace, c'est la voix de la femme adultère. Et cette trace, cette voix de la femme adultère, c'est quoi? C'est elle mange, elle s'essuie la bouche, donc elle consomme en fait quelque chose de mauvais, c'est ce que ça signifie, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Et cette attitude et ce reniement, en fait, c'est exactement, et c'est pour ça que j'ai mis ces deux proverbes numériques ensemble, c'est exactement le résultat de l'attitude que nous avons vue dans le premier proverbe numérique. Dans le premier proverbe numérique, donc la cupidité, l'insatiabilité et le fait d'avoir une mauvaise attitude envers Dieu et envers les conséquences de Dieu sur la terre, eh bien, c'est exactement cette femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et elle dit, moi, j'ai rien fait de mal. Et c'est intéressant parce que quand on réfléchit un peu à comment fonctionne ma chair, ma vieille nature pécheresse, mon Adam, c'est exactement ça. Il faut toujours qu'il y ait un coupable, mais surtout pas moi. Il faut toujours qu'il y ait une explication, mais ce n'est pas moi. C'est toujours les autres. Et Adam, il vit en permanence dans un manque, dans une insatiabilité. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas le fait que les choses soient au-dessus de sa portée. Hein? Comme il est dit au verset 18, que les choses soient au-dessus de ma portée et que je ne peux comprendre. Et ce que Adam comprend, eh bien, c'est la trace de la femme adultère. Et Dieu nous appelle à rencontrer la trace, ou si vous voulez, on va donner un autre mot pour que ça puisse être un peu parlant. Un synonyme de trace, c'est une empreinte. C'est une empreinte. Est-ce que je vais vivre dans la trace de Dieu, dans l'empreinte de Dieu? Est-ce qu'il va y avoir une empreinte de Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je vais vivre dans, et je vais créer simplement les traces, les empreintes de la chair, en fait? C'est ça qui va être intéressant. Et je vais, comment dire, je vais aller très vite, en fait, pour terminer. On va regarder autre chose. Pour donner un peu une forme d'illustration à cela. Vous vous rappelez Ézéchias, le roi Ézéchias, donc qui était un bon roi. À un moment donné, donc en Ésaïe 38, il est dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai cherché de que j'ai marché devant ta face, pardon, avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, et j'ai entendu ta prière, et je vais te rajouter 15 ans de vie. Et on sait que ces 15 ans de vie n'ont pas été exactement profitables. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est Ézéchias, bon, qu'il soit affecté par le fait que Dieu lui dise, tu vas mourir, pourquoi pas? Qu'il pleure, pourquoi pas? Mais sa prière, je la trouve bizarre. Sa prière, c'est, souviens-toi que j'ai marché devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, que j'ai fait ce qui est bien, etc. Comme si tout cela... ça devait vouloir dire, en fait, je ne dois pas mourir, quoi. J'ai mérité de ne pas mourir. Et donc, c'est assez bizarre. Parce que du coup, au chapitre suivant, donc c'est quelque temps plus tard, les émissaires de Babylone viennent à Jérusalem. Ézéchias leur montre tout ce qu'il y a dans le temple. Et puis, vous avez Ésaïe au verset 39, verset 5. Ésaïe dit à Ézéchias, enfin d'abord il lui demande qu'est-ce qu'ils ont vu et tout, et puis verset 5, alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et écoutez ça. Ézéchias répondit à Ésaïe. La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Vous trouvez qu'elle est bonne, la parole de l'Éternel, là? Moi, non. Elle est bonne. Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que quand nous quittons la trace de Dieu, notre attitude, elle est complètement déboulonnée. Ézéchias est un bon roi, il est comptabilisé dans les bons rois d'Israël, un des mieux. Il a fait des choses super, il a eu une très bonne attitude avec Dieu. Mais à partir du moment où il n'a pas accepté ce que Dieu lui a annoncé pour sa vie, ça a pas juste comment été, ça a pas juste été négatif pour sa vie ou pour la vie des autres. Ça a changé de manière négative son caractère. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a changé la trace qui était en lui. C'est ça que je veux dire. C'est que, en fait, jusqu'à ce moment-là, on va dire Ézéchias, voilà, c'est le bon exemple. Et à ce moment-là, Dieu fait quelque chose. Il lui dit, écoute, tu vas mourir et arrange tes affaires, enfin, règle tes affaires, tu vas mourir. Et en fait, ça devrait être. Vous savez quoi? Moi, j'aimerais que ça m'arrive, ça. Que Dieu me dise, Bruno, voilà, dans tant de temps, tu vas mourir. Donc, règle les choses que tu dois régler avant de mourir, pour les gens qui vont rester, etc. Et tu vas mourir. Mais j'aimerais, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me parle. Et si Dieu me parle et me dit cela, vous imaginez, si Dieu vous dit ça, quelle crainte vous avez besoin d'avoir? Aucune. Par contre, si un médecin vous dit vous allez mourir dans 6 mois, C'est pas pareil, c'est pas Dieu qui le dit. Eh bien, ce que nous avons besoin d'apprendre, c'est que quand le médecin va le dire, c'est Dieu qui le dit. Et donc, c'est, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça signifie que je vais rencontrer Dieu et dans une dimension encore plus grande. Et si je lutte avec ce genre de choses-là, je vis dans ce qui est dit dans le Nouveau Testament, la crainte de la mort, qui est l'aiguillon du péché, enfin la mort est l'aiguillon du péché, et la crainte de la mort qui nous manipule en fait et qui nous guide. Et il a dit, qu'est-ce qu'il nous a dit aussi? Il nous a dit l'amour rejette la crainte, c'est ça qu'il a dit. Enfin, je vous le paraphrase très mal, c'est dans 1 Jean. Mais donc c'est ça. Et donc on a besoin du coup de se concentrer sur la trace que nous sommes appelés à suivre. Quelle est l'empreinte qu'il y a dans ma vie? Quelle est l'empreinte que je veux suivre dans ma vie? Et une dernière réflexion, on va même pas, enfin on va tourner, mais très vite, vraiment ça va être un soupçon. En Jean 11, vous savez, c'est la résurrection de Lazare. Et là encore, je veux vous mettre un peu en opposition le naturel et le spirituel. Parce qu'il y a du naturel qui semble spirituel, mais qui ne l'est pas. L'attitude d'Ézéchias, elle pourrait sembler spirituelle, mais les fruits nous montrent que pas du tout. Pas du tout, parce que sinon, ben, il dirait pas que c'est une bonne nouvelle quand on lui dit que tout le monde va être déporté. Et ici, quand Jésus va ressusciter Lazare, on lui annonce d'abord que Lazare est malade. Et donc, au verset 11, verset 6, il est dit, et d'abord, il est dit au verset 5, « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. » Verset 6, « Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. » C'est très intéressant que ces versets soient mis à la suite. Premier verset, Jésus aime Lazare et ses deux sœurs. Verset suivant, il apprend que Lazare est malade, il sait que ça va être à la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'accourt pas, il attend 2 jours. Un peu plus tard, verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, il est arrivé en retard. Pourquoi? Parce qu'il a attendu 2 jours. Mais il a attendu 2 jours alors qu'il aime Marthe, Marie et Lazare. Vous comprenez? Je ne comprends pas la trace de Dieu, mais je n'ai pas besoin de la comprendre. Elle est au-dessus de ma portée. J'ai besoin de la recevoir. Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle a beaucoup de foi, mais elle ne croit pas que Jésus va ressusciter Lazare. Pas dans ce temps-là. Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » La trace de Dieu, c'est incompréhensible, c'est au-dessus de ma portée, mais c'est ça. C'est « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Vous imaginez? Quand même il serait mort, il vivra. Ça, c'est la trace de Dieu dans notre vie. Et verset 32, « Lorsque Marie fut arrivée, » parce que Marthe est toujours le mauvais élément, « Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mon frère ne serait pas mort. Exactement la même réflexion que Marthe. Quand Jésus parle de résurrection, ils disent, « Oui, je sais qu'à la fin des temps, tu vas ressusciter les corps. » D'accord. Merci, j'ai compris, tu connais bien ton bouquin de théologie, mais tu ne me connais pas. Et vous savez, une réflexion que je me faisais, c'est que l'homme naturel, il pense que Jean chapitre 11, c'est le chapitre de la résurrection de Lazare. Mais en fait, Jean chapitre 11, c'est la trace de Dieu. Et la trace de Dieu, ce n'est pas la résurrection, c'est la vie. Et nous nous trompons entre la vie naturelle et la vie spirituelle parce que nous croyons, nous ne voyons pas la vie de Dieu dans cette vie. Nous ne voyons pas la vie qui est défini en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Quand même il serait mort, il vivra. Et là, c'est le chapitre de la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la trace que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre esprit, et c'est ce que nous avons besoin de rechercher, de poursuivre, et cela ne nécessite pas de la compréhension, cela ne nécessite pas que nous allions monter au-dessus, c'est au-dessus de notre portée, c'est au-dessus de ma compréhension, mais c'est la trace de Dieu. Et peut-être que la trace de la femme adultère, je la comprends, mais c'est la trace de la femme adultère, c'est la trace de Adam, c'est le premier tracé qui est maudit. C'est celui qui me laissera toujours insatiable. C'est celui qui va toujours m'amener dans une mauvaise attitude comme Ézéchias. Et donc, voilà, je voulais vous laisser ce soir avec cette pensée, cette réflexion sur la trace de Dieu dans nos vies. Amen.